Bon, je vais commencer, installez-vous vite s'il vous plaît. J'ai l'impression qu'il n'y a plus personne à la régie. Là. Je peux commencer? Donc, bonjour à tous. On va avoir ce matin la dernière séance du cours d'optimisation. On termine avec ce qui avait été commencé la semaine dernière, donc l'optimisation linéaire. Simplement, donc on a déjà vu cette slide, je rappelle une notation fondamentale pour la compréhension de l'optimisation linéaire et pour la compréhension de l'algorithme du simplex, dont on va parler dans quelques secondes. Donc cette notation-là, si on a une matrice A et que je prends un sous-ensemble B de ces colonnes, A indice B, bah c'est la sous-matrice engendrée par les colonnes dans B. Et la même notation vaut pour les vecteurs. On avait vu donc la semaine dernière que la forme particulière sur laquelle on écrivait un problème d'optimisation linéaire pour son étude, c'est ce qu'on appelle la forme standard, et c'est quelque chose comme ça. Les inégalités sont portées par les variables. Et vous avez dû voir en petite classe que c'était absolument sans perte de généralité. On va supposer, et j'avais expliqué aussi que c'était sans perte de généralité, que les lignes de A sont linéairement indépendantes. Et donc, dans ce cas-là, on peut avoir la notion de base, qui est un sous-ensemble de colonnes de la matrice A, qui forme une matrice carrée inversible. Et on parle de base réalisable si donc cette matrice AB est non seulement inversible, mais elle vérifie cette inégalité-là, AB-1B, super égal à 0. On avait expliqué que ça s'appelait une base réalisable parce que naturellement associé à cette base, il y avait une solution réalisable du problème d'optimisation linéaire. Il y avait une solution réalisable du problème d'optimisation linéaire qu'on appelle solution basique réalisable. Et d'où cette terminologie de base réalisable. On avait en particulier expliqué que ces bases-là permettaient si on se restreint aux solutions basiques réalisables, si un problème d'optimisation linéaire est borné inférieurement, donc s'il a une valeur optimale, finie, eh bien, on ne ratera pas la solution optimale. Il existe toujours une solution optimale qui est basique réalisable. Et donc, j'avais commencé à expliquer la dernière fois que ça permettait finalement d'avoir un algorithme parce que on pouvait finalement énumérer un algorithme qui en temps fini trouve la solution optimale parce qu'il suffit, si on sait que c'est borné inférieurement, par exemple on sait que la valeur optimale, la fonction objective est toujours minorée par 0 par exemple, on sait qu'il suffit d'énumérer tous les sous-ensembles de taille M, où M est le nombre de lignes, et pour tester si c'est inversible, tester si la solution basique réalisable, basique associée est bien réalisable, et regarder celle qui donne la plus petite valeur à la fonction objective. Et ce théorème-là assure qu'on ne rate pas la solution optimale. Le problème avec cet algorithme, je crois que je ne l'avais pas dit la semaine dernière, et c'est ce qui va justifier l'introduction de l'algorithme simplex, le problème avec cet algorithme-là, c'est qu'il a beau fonctionner en temps fini, il va vous prendre un temps très très grand. Hein, si par exemple, n, je pense que je l'ai mis dans le poly, si on prend... si on prend, donc en page 29, si on prend n le nombre de colonnes qui est deux fois le nombre de lignes, ce qui est tout à fait raisonnable, on peut même avoir beaucoup, beaucoup plus de colonnes, on voit que le nombre de bases possibles, a priori à tester, c'est 4 puissance m. Hein, c'est la dernière ligne de la page 29. Donc c'est exponentiel. C'est exponentiel dans la taille de l'instance, du problème que vous voulez résoudre. Si, je ne sais pas si par exemple vous avez un problème avec 50 contraintes, m égale 50. M égale 50, ça fait 2 puissance, 4 puissance 50, ça fait 2 puissance 100. 2 puissance 100, c'est 10 puissance 30, à peu près. 10 puissance 30, c'est... 10 puissance 30, c'est... 1 milliard, c'est 10 puissance 9. Hein. L'âge de l'univers, c'est 10 puissance 15. 10 puissance 30, même si je vous donne le meilleur ordinateur du monde, il vous faudra des milliards et des milliards et des milliards et des milliards d'années pour énumérer toutes les possibilités. Donc c'est un algorithme théorique. Hein, et M, j'ai dit quoi ? M égale... J'ai dit quoi ? M égale... J'ai dit quoi déjà ? 50. M égale 50, c'est pas grand-chose. Hein. Vous regardez déjà le petit projet que vous faites... Vous avez M, je ne sais pas combien vous avez dans votre petit projet, mais c'est du même ordre de grandeur. Donc vous imaginez que sur des vrais programmes industriels où c'est des milliers de contraintes, des milliers de lignes, un tel algorithme qui consiste juste à énumérer les solutions, les bases possibles, ne peut pas fonctionner. Vous êtes d'accord ou non ? Ça va ? D'où la notion de, d'algorithme du simplex. Donc l'algorithme du simplex est un algorithme qui a été trouvé à la fin des années 40, et qui a été le premier algorithme efficace pour résoudre les problèmes d'optimisation linéaire. Et soit dit en passant, donc je ne m'attends pas là-dessus dans le cours, mais même résoudre, trouver une solution réalisable, juste trouver une solution réalisable, oubliez la fonction objectif, trouver une solution réalisable à un problème d'optimisation linéaire, c'est quasiment équivalent à optimiser. On peut le vérifier assez facilement. Donc ce que je suis en train de dire, c'est qu'avant les années 40, on n'avait pas d'algorithme efficace pour résoudre un système d'égalité et d'inégalité linéaire. Donc ça a été trouvé à la fin des années 40, ça doit être marqué dans votre police, je dirais 47 comme ça, et il y a eu d'autres algorithmes depuis, comme je vous l'avais dit lors de la séance TPA, mais l'algorithme simplex reste encore l'algorithme, je pense, le plus utilisé en optimisation linéaire. C'est l'algorithme qui est implémenté, par exemple, dans GUSEC, GLPK, que je vous ai recommandé. Donc ça reste encore l'algorithme de référence pour l'optimisation linéaire. Donc, on considère un problème d'optimisation linéaire sous forme standard. Et ce que j'affirme, et c'est une des idées clés de l'algorithme simplex, c'est que si je prends une base réalisable, donc souvenez-vous, une base réalisable, c'est un sous-ensemble, si j'ai m contraintes, c'est un sous-ensemble de m colonnes qui forme une matrice inversible, et telle que la solution basique associée soit une solution réalisable du problème. Elle s'écrit AB moins 1B, 0. Donc j'affirme que le problème de départ est absolument équivalent à ce problème-là. Et ça se démontre en quelques lignes. J'espère que vous allez voir ce que j'écris. Donc vous êtes d'accord que la fonction objectif... Alors je vais plutôt écrire ça comme ça. Si j'écris A de X égale B, donc ça c'est l'ensemble des contraintes affine, linéaire du problème, des égalités, grande égalité du problème. Vous voyez AX égale B là ? Quitte à rassembler les colonnes indicées par B ensemble et les colonnes indicées par N ensemble, j'avais déjà fait plus ou moins ce genre de calcul la semaine dernière, je peux réécrire ça comme ça. Hein ? Si vous avez du mal avec cette notation, pensez toujours que une matrice A fois un vecteur X, c'est juste la somme des xi à i. Hein, c'est juste. Je crois que parfois les élèves ont du... C'est bête, mais les élèves ont des fois ont du mal avec ça. Quand j'écris a de x, vous pouvez très bien penser que vous mettez un poids réel xi sur le vecteur ai, qui est la colonne ai de la matrice a. C'est bon ou non ? Ça va ? Donc je peux... ax, je peux le réécrire comme ça. ab xb plus an xn. C'est juste que là-dedans, j'ai décomposé cette somme avec d'abord les indices i dans B et ensuite les indices i dans M. AB est inversible, donc j'ai XB plus... Dites-moi si vous voyez rien, hein. Si je m'agite que vous ne savez pas trop ce que j'écris, dites-le-moi. Vous voyez quelque chose là ou non ? AB moins 1 AN XN égale, j'ai plus la place ici, j'écris en dessous, AB moins 1 B. AB est inversible, donc je peux réécrire ça en multipliant à gauche par AB moins 1. La fonction objective, c'est C de X, c'est égal à CB, enfin C scalaire X, hein, CB scalaire XB, même chose, plus CN scalaire XN. Mais sur l'ensemble des solutions réalisables, j'ai cette relation-là. Vous êtes avec moi ou non? Sur l'ensemble des solutions réalisables, j'ai cette relation-là. Donc sur l'ensemble des solutions réalisables, la fonction objective, elle vaut aussi CB XB, je passe ça de l'autre côté, donc je trouve AB moins 1B, donc ça c'est un produit scalaire, hein, moins CB, ce que je peux mettre sous la forme transposée, AB moins 1 AN XN. Si vous ne voyez pas ce qu'il y a au tableau, la seule chose que je fais, c'est j'utilise cette... Si vous voyez, enfin, j'espère que vous voyez ça quand même. Là, j'ai enlevé le AB devant XB, j'ai utilisé le fait que c'était inversible pour exprimer XB en fonction de XN. Et je remplace XB dans la fonction objectif. C'est tout bête ce que je fais. Je fais disparaître XB de la fonction objectif. Est-ce que vous comprenez ce que je fais là? C'est bon? Eh bien, regardez, c'est exactement ça. Vous voyez là? J'ai juste réécrit la fonction objectif sous cette forme-là. Ce que je suis en train de dire, c'est que si je prends une base réalisable B, je peux absolument remplacer la fonction objective C scalaire X par le terme que j'ai mis en surbrillance, là. Ça ne change rien sur l'ensemble des solutions réalisables du problème par un simple calcul d'algèbre linéaire, tout ce qui est le plus élémentaire, en utilisant le fait que AB est inversible. Remarque importante, fondamentale, j'aurais presque pu la mettre sur la slide et on réutilisera. Est-ce que vous pouvez me dire est-ce que vous pouvez interpréter ça? Est-ce que quelqu'un peut m'interpréter ce terme-là? Je vais le marquer ici, mais j'aimerais bien que quelqu'un me dise, ah mais au fond ça c'est... Ça va être marqué dans le poly, donc regardez pas dans le poly, mais... C'est... Alors je vais vous rappeler quelque chose, la solution basique, j'écris comme ça, réalisable, associée à B, à la base B, je vous rappelle que c'est YB égale AB moins 1, B, YN égale à 0. Donc ce terme que j'ai mis en surbrillance, est-ce que vous ne pouvez pas faire un lien entre ce terme-là en surbrillance et le YB? Absolument pas. C'est quoi? Donc ça, ce que je veux dire, c'est très important. C'est la... Oui? C'est C scalaire? Alors, c'est C scalaire, en fait, attention, parce que C, il y a toutes les entrées dans B et dans pas B. Donc, c'est C scalaire quoi, en fait? C scalaire Y. Parce que YN égale 0, donc ça disparaît. Donc, il y a juste CB, YB. Ça, c'est CB, YB qui est égal à C scalaire Y. C'est la valeur de la fonction objective, prise sur la solution basique réalisable associée à B. Je n'ai malheureusement pas la place sur les tableaux, là, j'ai pas envie, donc mettez-le dans le crâne, ou je ne sais pas sur votre feuille, ou où vous voulez. CB, AB moins 1B, ce n'est rien d'autre que la valeur de la fonction objective prise sur la solution basique réalisable associée à B. C'est tout. Je choisis une base réalisable, je fais cette petite opération magique sur la fonction objectif et je fais apparaître naturellement la valeur de la fonction objectif sur la solution basique réalisable associée à B. Bon. Ça va, vous êtes toujours avec moi? Je continue. Donc, ce que je vous ai expliqué là, c'est qu'en choisissant une base réalisable B, je peux réécrire mon problème d'optimisation linéaire sous une forme équivalente en faisant naturellement apparaître dans la fonction objectif. Donc c'est un terme constant là, hein, en faisant naturellement apparaître dans la fonction objectif, la valeur de la fonction objective sur la solution basique réalisable associée à cette base B. Slide suivante. Cette slide-là, c'est juste pour introduire un mot pour le moment. Vous remarquez que c'est exactement la même chose que la slide précédente. J'ai juste remplacé ce terme-là. Je suis avec la souris parce que, comme c'est filmé, hein, sinon on ne voit pas. Ce terme-là, je l'appelle R. J'ai le droit de l'appeler R. Et ben, je l'appelle R. R, en fait, ça vient comme coût réduit. C'est un terme qui a été introduit au moment de la définition de la gamme du simplex. Je pense que ça a été défini par Dantzig lui-même. On appelle toujours, pour les spécialistes de l'optimisation linéaire, il y a des gens, hein, vous savez, qui passent leur vie entière, du matin au soir, à contempler ce genre de choses. Et donc, pour eux, on ne peut pas appeler R autrement que les coûts réduits. On n'a pas le droit. Donc, c'est les coûts réduits. R, c'est comme réduit, quoi. C'est les coûts réduits. Et maintenant, c'est là qu'il y a une autre remarque. Ça a l'air tout simple, hein. Remarque fondamentale. C'est que si R est positif, alors vous êtes sûr que vous avez trouvé une base optimale, c'est-à-dire une base réalisable dont la solution basique réalisable associée est une solution optimale du problème. Est-ce que vous voyez pourquoi? Est-ce que quelqu'un peut me le démontrer, ça? Hein, je vous demande de montrer la proposition qui est là. J'ai dit que c'était page 30 du poly, je ne sais pas si c'est vrai. Voilà, c'est caché dans... Si, c'est la proposition 4.2, c'est le début de la proposition 4.2. Page 30. Donc pourquoi est-ce que c'est vrai, ça? Est-ce que c'est évident? C'est pas évident? Si c'est évident, vous aurez à le dire. Hein. Si vous ne comprenez absolument pas, vous aurez à le dire aussi. Pourquoi est-ce que si R égale 0? Enfin, moi, je dis que c'est quand même... Si on comprend ce qui se passe, c'est à peu près évident. Oui ou non? Est-ce que quelqu'un voit pourquoi? Personne ne voit? Personne ne voit. C'est pas grave. Premièrement, j'espère que je vais pouvoir vous expliquer cette proposition facilement. Ce terme-là, est-ce que vous êtes d'accord que ce terme-là, c'est quoi ce terme-là? C'est la valeur de la fonction objectif prise sur la solution basique réalisable associée à B. Hein, je dis base, B est une base réalisable. Donc cette valeur-là, elle est atteignable par le problème d'optimisation linéaire. Vous êtes d'accord avec ça? Est-ce que quelqu'un n'est pas d'accord avec ça? Est-ce qu'il y a une objection sur le fait que la fonction objectif puisse atteindre cette valeur? Non? C'est bon, d'accord? Bon, maintenant je prends un x quelconque réalisable. Xn a ses composantes, comment? Positives, négatives, quelconques? Si c'est une solution réalisable, je prends un x réalisable, j'affirme que xn a toutes ses composantes positives. Et maintenant, si R est positif, qu'est-ce que vous pouvez dire du second terme de la fonction objectif? Il est comment, ça? C'est comment? Oula, c'est positif, vous êtes d'accord? C'est positif. Donc, quel que soit le x réalisable que vous prendrez, vous ne pourrez jamais faire mieux que le premier terme de la fonction objectif, qui est atteignable sur la solution basique réalisable associée. Ça va ou non? Normalement, c'est très simple, en fait, ça. Si jamais on, par chance, on trouve une base telle que le coût réduit à toutes ses composantes positives, c'est qu'on a trouvé la solution optimale. Alors, je vais rester encore un tout petit peu là-dessus. Le truc qui fait que l'algorithme du simplex marche, c'est qu'on a, en fait, une sorte de réciproque. Si jamais le problème d'optimisation linéaire est borné inférieurement, si le problème d'optimisation linéaire est borné inférieurement, vous êtes sûr qu'il y a une solution optimale, et la solution optimale, elle sera nécessairement comme ça, avec les coûts réduits positifs. Donc c'est ça l'idée de l'algorithme du simplex, c'est que finalement on a une équivalence. Une sorte d'équivalence. Je ne l'ai pas écrit comme ça parce que ce n'est pas tout à fait vrai. Mais une sorte d'équivalence. L'algorithme simplex va absolument chercher à avoir les coûts réduits positifs. Et dès qu'il voit les coûts réduits positifs, il sait qu'il a gagné, il a trouvé la solution optimale. Donc ça, c'est le premier ingrédient de l'algorithme simplex. C'est absolument chercher une base réalisable dont les coûts réduits sont positifs. Vous avez une question, mademoiselle, là? Allez-y, si vous voulez. Hein. Non, vous ne voulez pas. Bon. Je peux essayer d'y répondre, hein. D'accord, donc ça c'est le premier ingrédient. Le deuxième ingrédient, c'est la notion de pivot. Donc à nouveau, je vous dis, là, ce que je vous explique là, c'est juste pour que vous ayez une compréhension générale de ce que fait l'algorithme du simplex. C'est absolument pas pour faire de vous des experts de l'implémentation de l'algorithme du simplex, comme je vous l'ai dit plusieurs fois, ça ne sert à rien. Ce que je fais là, c'est juste une description très générale. Dans les faits, on utilise beaucoup d'autres choses. c'est quelque chose de difficile en fait à implémenter, et ça ne sert à rien parce que ça a été implémenté déjà des milliers de fois sur Internet ou dans des logiciels commerciaux. Donc, la deuxième notion qui est vraiment fondamentale et qui est contenue à nouveau encore dans la proposition 4.2, donc cette proposition 4.2 dans le poly, elle rassemble les résultats que je présente plus d'autres. Donc si vous voulez vraiment comprendre plus finement la gonne simplexe, vous pourrez regarder la proposition 4.2. Mais là, la deuxième idée, c'est la suivante. Mettons-nous dans le cas particulier où le problème d'optimisation linéaire est complètement borné. D'accord ? Donc c'est en fait ce qu'on appelle un polyèdre borné, c'est un polytope. Donc vous savez que la fonction objectif est bornée. Vous avez une question ? Non ? Vous savez que la fonction objectif est bornée. Vous savez aussi, en optimisation linéaire, si la fonction objectif est bornée, vous avez une solution optimale. Je ne vais pas revenir dessus, parce que j'ai déjà dit plusieurs fois, mais c'est ça qui est bien avec l'optimisation linéaire, c'est que si la fonction objectif est bornée, si la valeur optimale est bornée, est finie, à ce moment-là, vous avez une solution optimale. Donc je me mets dans ce cadre-là, juste pour que la compréhension de l'algorithme, je suppose que ça, c'est l'ensemble des solutions réalisables, vous êtes d'accord, que c'est borné. Et bien, vous avez une chose assez marrante, c'est que si je prends une base réalisable, B, N, c'est ce qui n'est pas dans la base réalisable. Donc imaginez, vous avez vos colonnes B, puis vous avez d'autres colonnes. Quelle que soit l'autre colonne que je prends à l'extérieur, je peux l'ajouter. J'ai presque envie de... Je vais essayer de faire un dessin. Vous avez une base réalisable B. Plutôt, je vais faire comme ça. Je vais faire comme ça le dessin. Ça, c'est ma matrice A. Ça, c'est les colonnes qui sont dans B. Ça, c'est les colonnes qui sont dans N. Donc là, j'ai bien entendu permuté les colonnes afin de d'écrire ça comme ça. Ce que je suis en train de dire, c'est que... Donc ça, c'est ma matrice AB. Hein. Ce que je suis en train de dire, c'est que quelle que soit la colonne que je prends ici, je prends une colonne que je n'ai notée K, je crois, sur le slide. Vous voyez, ça, c'est la colonne K. Je peux rajouter K à B. Et il existera toujours une colonne que je peux retirer. Je ne sais pas, par exemple, celle-là. Je la fais disparaître, telle que, je vais la mettre là, ma colonne K, juste là, vous voyez, telle que ça, donc sans ce truc-là, ce sera à nouveau une base réalisable. Donc je ne vous le démontre pas, c'est démontré dans le poly, je vous demande juste de me croire, juste pour que vous voyez que c'est un petit miracle mathématique. En fait, ça ressemble un peu à ce que j'avais fait la semaine dernière pour prouver qu'on pouvait se ramener toujours à des solutions basiques réalisables. J'avais essayé de faire une sorte d'esquisse de preuve au tableau. La preuve est très proche de ça. D'ailleurs, je pense que je mutualise les deux preuves dans le... Non, c'est pas vrai, ça. En tout cas, c'est très proche. Mais voilà, juste croyez-moi, vous avez une base B, vous pouvez prendre une colonne à l'extérieur, et elle va chasser une colonne déjà présente pour créer une nouvelle base réalisable. Est-ce que vous comprenez? Je vous demande pas de comprendre pourquoi c'est vrai. Je vous demande juste de comprendre ce que ça veut dire, ce résultat. Vous le comprenez, ça va ou non? Mais ce qui est important, c'est quel que soit le cas, vous pouvez choisir, vous pouvez prendre n'importe lequel, il y aura toujours une base réalisable. Une fois que vous avez ça, je pense que même si vous ne comprenez pas toutes les mathématiques qui sont derrière, oui, vous avez une question ? Oui ? Pourquoi est-ce que je ne l'ai pas mis sur cette slide ? Parce que normalement, c'est automatique. Vous savez que toutes les bases réalisables ont la même taille. Pourquoi ? Parce que ça va former une sous-matrice carrée. Donc, je ne l'ai pas mis sur cette slide-là juste pour ne pas surcharger. Et normalement, c'est implicite. Donc, quand j'écris B' inclus dans B union K, c'est ça que ça veut dire, sachant qu'elles ont toutes la même cardinalité, ça veut dire exactement que j'en chasse une. C'est bon ou non ? Et une fois que vous avez vu la proposition précédente, ou le théorème précédent et ce théorème-là, il y a un truc qu'on a envie de tenter. Je suis sur une base réalisable. Je suppose qu'on avait trouvé une. Je ne dis pas comment faire, mais il y a des techniques. J'ai une base réalisable. Je calcule les coûts réduits. R. Si c'est positif, c'est gagné. Si c'est pas positif, j'essaye tous les cas qui ne sont pas dedans, toutes les colonnes qui ne sont pas dedans, et je regarde si par... Je sais qu'à chaque fois que j'en prends un, je construis naturellement une nouvelle solution basique, une nouvelle base réalisable, donc une nouvelle solution basique réalisable, donc une nouvelle solution que je peux tester. Et si ça diminue la fonction, si ça donne une meilleure solution, je la garde et je recommence. Oui ou non ? Et c'est exactement ça la grenouille simplexe. C'est juste ça la grenouille simplexe. Je fais des pivots, comme ça, en cherchant à améliorer à chaque fois la fonction objectif. Et ce qu'on peut démontrer, c'est que nécessairement, à un moment, on arrive à un coût réduit, à un R qui est positif ou nul. Et si on n'y arrive pas, c'est qu'à ce moment-là, la valeur optimale vaut moins l'infini. Hein, c'est ce qui est marqué dans la proposition, si vous avez votre police sous les yeux. La proposition 4.2, c'est le petit 2. Donc, je ne parle pas tellement dans les slides, juste pour vous donner l'intuition. Mais vous voyez, dans la proposition 4.2, page 30, le point 2, c'est précisément le cas où cette procédure ne marche pas. Mais si elle ne marche pas, c'est que la seule raison pour laquelle ça ne marche pas, c'est qu'à ce moment-là, la valeur optimale, c'est moins l'infini. Je peux rendre mon critère arbitrairement petit. Mais si c'est borné inférieurement, vous êtes sûr que le pivot marchera toujours jusqu'à ce que vous arriviez à un R positif. Donc voilà l'algorithme simplex. Donc c'est une version un peu épurée par rapport à celle que j'ai mise dans le poly. C'est pour vous donner, à nouveau, hein, c'est juste pour vous faire passer le message. Mais normalement, ce que vous voyez sur cette slide-là, c'est naturel. Ça va vous sembler naturel par rapport à ce que je viens de dire. Hein, vous avez parti d'une base réalisable. Vous calculez le coût réduit. Si c'est positif, vous savez que vous avez trouvé la solution optimale. C'est sûr. Et ça, on a fait la preuve. Je l'ai fait oralement, mais on a fait la preuve. Sinon, vous pouvez choisir K. Donc là, c'est quelque chose que je n'ai pas dit, mais on peut facilement voir que si vous prenez RK, un K tel que le coût réduit, l'entrée de R est strictement négative, c'est facile de le voir. Je ne le fais pas en amphi parce que je n'ai pas le temps. Mais c'est facile de voir que ça va forcément améliorer la fonction objectif. C'est, en fait, le coût réduit, non seulement il vous dit si vous êtes optimal, mais il vous dit aussi quelle est la colonne qu'il faut faire rentrer pour améliorer la fonction objectif. Et ensuite, vous faites le pivot. Et si le pivot n'est pas possible, je vous ai dit, à ce moment-là, vous savez que la valeur optimale, c'est moins l'infini. Et si le pivot est possible, vous revenez en 1, vous recalculez le coût réduit, vous testez s'il est positif. S'il n'est pas positif, ben vous prenez l'entrée qui est négative, vous pivotez, vous recommencez. C'est juste ça, l'algorithme simplex. Ça va, vous le direz. Vous voyez, c'est relativement simple, en fait. C'est très naturel. Le petit, s'il faut aussi comprendre quel est le petit miracle, le truc qui est... Vous avez une question, oui? Oui, vous pouvez avoir plein de solutions optimales. Je pense que quand on avait fait le TPA, je vous avais montré que vous pouviez taper sur une face, donc je vous ai montré ça ou non? Je ne sais plus, peut-être, je ne sais plus. En tout cas, vous pouvez, quand vous voyez ça de manière géométrique, vous pouvez avoir toute une face entière de solutions optimales. Et à ce moment-là, en général, je dis, hein, parce qu'il faut que je sois précis, en général... Tous les R correspondant à... Je vous rappelle que les sommets, c'est les bases. Tous les R correspondant à ces sommets-là sont positifs ou nuls. Donc, il n'y a pas d'unicité. Vous n'avez pas d'unicité de la solution optimale. Vous n'avez absolument pas d'unicité de la base optimale, du coût réduit, positif. Et vous n'avez pas non plus d'unicité du pivot. Je vais revenir dessus dans quelques secondes. Mais s'il y a d'autres questions... S'il n'y a pas d'autres questions, je continue. Donc, je vous ai dit que... je voulais juste signaler que quel est le petit miracle mathématique? Ce qui, normalement, devrait vous surprendre un tout petit peu. Enfin, normalement, enfin. Ce qui est un peu surprenant si on commence à y réfléchir, c'est que je suis en train de dire, c'est quelque part, c'est qu'il n'y a pas de minima locaux, parce que si vous êtes, ce que je suis en train de dire, c'est que si vous n'êtes pas à la solution optimale, alors vous pouvez toujours bouger, vous pouvez repérer la direction dans laquelle vous devez bouger avec RK négatif. Ça, c'est pas du tout clair. Ça pourrait très bien qu'il y ait des minima locaux. Mais en fait, le fait que ce soit linéaire fait que tout se passe bien. En gros, ce que je suis en train de dire, c'est que si localement vous améliorez la fonction objectif, eh ben, globalement, vous serez sur un chemin qui améliore la fonction objectif et qui termine dans la solution optimale. C'est le petit point qui est un peu surprenant, mais qui vient du fait qu'on est... ça vient vraiment du fait qu'on est linéaire. Si c'était convexe, ça ne marcherait pas. L'optimisation convexe n'a pas cette propriété-là. Même l'optimisation concave, en fait. C'est vraiment parce que c'est linéaire. Alors, j'étais en train de dire, vous pouvez choisir plein de cas, en fait. Imaginez que votre R a toutes ses entrées négatives. Là, vous avez... lequel choisir? Eh bien, depuis les années 40, il y a des gens, donc je vous dis, qui ont consacré leur vie à étudier l'optimisation linéaire. Il y a même des gens qui ont presque consacré leur vie à étudier quel cas choisir pour aller le plus vite possible vers la solution optimale. Donc, je vous redis, l'algorithme simplex est utilisé vraiment beaucoup dans l'industrie. C'est un algorithme fondamental. Donc, il y a des gens, vraiment, qui ont... pour qui c'est devenu une vocation en recherche d'améliorer l'algorithme simplex. Ce qu'on appelle les règles de pivot. C'est ce qu'on appelle une règle de pivot. J'ai mis règle de pivot, c'est exactement comme ça qu'on appelle ça. Et selon les règles de pivot, on sait que ça peut aller plus ou moins vite, oui. Non, ce que l'on sait forcément, déjà, R il est défini uniquement sur N. Hein, je reviens sur la définition de N. De R, que je raconte, de NR. R, il a ses entrées, R, il est défini avec ses entrées qui ne sont pas dans la base. Donc, quelle que soit l'entrée de R, vous savez que c'est quelque chose que vous pouvez rajouter à votre base, par définition. Je ne vous demande pas tout, là. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que si jamais vous n'êtes pas optimal, forcément, vous pouvez prendre... Ça veut dire qu'il existe ce que ça vous dit, l'algorithme simplex, c'est que si ça, ce n'est pas optimal, c'est qu'à ce moment-là, je peux choisir une colonne ici, la rajouter à B, chasser une colonne de B et avoir quelque chose qui est mieux. Mais votre question est tout à fait, en fait, excellente. On pourrait très bien définir, il y a des gens qui définissent R aussi avec... On pourrait le faire mathématiquement, définir sur B. Là, je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais à ce moment-là, ce qu'on voit, c'est qu'on peut démontrer qu'à ce moment-là, ça vaut zéro. Si vous prenez une autre définition de R qui couvre celle-là et qui s'étend à B, forcément, les composants de R correspondant aux entrées de B sont nuls. Donc, ce n'est pas le point de vue que j'ai pris dans le poly. J'ai dit, je définis R, c'est pour ça que je vous ai répondu comme ça au début. Je définis R. De toute façon, ça n'existe que sur le complément de B. Mais c'est vrai qu'on pourrait... changer un peu la définition et on aurait cette propriété-là à ce moment-là. J'espère que ça répond à votre question, sachant que je suis obligé de rester assez général. Donc j'étais en train de dire que selon les règles de pivot, on pouvait aller plus ou moins vite. Et il y a même en fait des situations un peu dégénérées, donc je passe sous silence là-dessus, bien sûr je passe sous silence certains détails, mais en fait il se pourrait même que malheureusement, vous prenez RK strictement négatif et vous n'améliorez pas strictement la fonction objective. Vous restez constant sur la fonction objective. Malheureusement, c'est possible, ça. Donc, il faut arriver à trouver des règles de pivot qui empêchent ce qu'on appelle de cycler. Qu'on améliore vraiment strictement à chaque fois la fonction objective. Je suis en train de regarder si je le dis dans le... Donc, c'est ce que je dis rapidement... À la fin de la page 31, j'aurais pu mettre... Oui, c'est ça, fin de la page 31. Donc, je vous explique qu'en fait, malheureusement, quand je disais que ça améliore la fonction objective, des fois, ça améliore de zéro. Mais il y a un théorème qui a été prouvé par Danzig lui-même, celui qui a inventé l'algorithme du simplex, c'est qu'il existe des façons de choisir le cas tel qu'on est sûr, vraiment, de terminer sur la solution optimale si elle existe. Et après, on peut choisir des règles de pivot qui sont plus efficaces que d'autres, c'est-à-dire qu'ils vont aller très vite vers la solution optimale. Je ne les détaille absolument pas dans le poly. C'est toute une littérature. Et de toute façon, voilà, je pense que là, on commence à rentrer dans la phase plus précise d'implémentation de l'algorithme. Et c'est des choses que je ne veux pas couvrir. Corollaire de ce théorème, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Corollaire de ce théorème, s'il y a une solution optimale, vous savez que vous prenez un problème d'optimisation linéaire borné inférieurement. Ce théorème vous dit que vous allez relancer l'algorithme simplex et qu'il va se terminer. Qui va se terminer sur une solution optimale, nécessairement avec R, positif, R supérieur ou égal à 0. Donc, corollaire de ce théorème, il existe toujours une solution optimale dont les coûts réduits sont positifs ou nuls. Hein? Donc, c'est la réciproque, un corollaire de ce théorème, de la finitude de l'algorithme simplex, et que on a la réciproque de la proposition que j'avais mise tout à l'heure, à savoir que j'avais dit si c'est R positif, alors c'est optimal, ça c'est toujours vrai. Par contre, si c'est optimal, enfin, il existe des solutions optimales pour lesquelles le R est positif. Ça va? Ça va ou non? Interprétation géométrique de l'algorithme simplex. Donc, je vous avais expliqué que les bases réalisables, c'était les sommets du polyL. Il y a d'autres façons d'enseigner l'algorithme simplex. Si on veut être encore plus, encore moins précis, c'est juste de dire que passer de l'algorithme simplex, au lieu de dire qu'il passe d'une base à une autre base voisine, on passe en fait en polyèdre, vous êtes sur un sommet, et vous passez sur un sommet voisin le long d'une arête. Mais en fait, c'est exactement ça ce qui se passe. L'algorithme simplex, quand je fais une règle de pivot, quand je fais un pivot, je suis une arête sur le polyèdre, je suis sur le bord du polyèdre, et je vais sur un sommet voisin. Donc géométriquement, l'algorithme simplex, c'est juste partir d'un sommet et suivre des arêtes en améliorant toujours la fonction objective, jusqu'à ce que je termine sur le sommet optimal. Ça va? C'est juste l'interprétation géométrique. Je ne sais pas si je le démontre dans le poly. Je ne me souviens plus. Je ne crois pas. Je l'ai mis comme... Ce n'est pas très difficile à vous démontrer, mais je ne l'ai pas... Je crois que je ne l'ai pas démontré. Une dernière chose encore sur l'algorithme simplex, avant de passer sur un autre sujet rapidement, là, sur la dualité forte, que vous connaissez déjà quasiment presque sur ce sujet-là. Il y a une chose que je n'ai pas précisé, c'est comment faire pour trouver une première solution basique réalisable. Dans l'algorithme simplex, j'ai dit on initialise avec une solution basique réalisable. Mais des fois, c'est difficile. Donc là, je ne le fais pas en amphi. Je ne sais pas si les chargés de TD m'entendent, mais on peut le faire en PC aujourd'hui. Regardez la section 4.4.3, donc page 32. Il y a un petit paragraphe qui explique comment faire. C'est une méthode comme un standard, hein, classique, pour trouver une petite astuce pour trouver une première solution basique réalisable. En fait, l'astuce, c'est de construire un autre problème d'optimisation linéaire pour lequel on a facilement une solution basique réalisable et dont la solution optimale est une solution basique réalisable du problème de départ. Voilà, donc c'est comme ça, vous savez qu'il est aussi possible de trouver des solutions basiques réalisables pour initialiser l'algorithme simplex. Est-ce qu'il y a des questions, sinon, là-dessus, avant que je dise quelques mots sur la dualité forte en optimisation linéaire? Pas de questions? Donc, je parle rapidement d'optimisation, la dualité en optimisation linéaire. Donc, vous savez déjà que l'optimisation convexe, en gros, on a toujours dualité forte dès qu'on a une valeur. Dès qu'on a une solution optimale, on a dualité forte. En optimisation linéaire, on a quasiment toujours dualité forte. C'est-à-dire, si vous partez du problème primal, écrit comme ça, ça c'est le problème dual. La démonstration est faite dans le poly, refaites-le pour vous hein, si vous ne l'avez pas encore tellement pratiqué. Mais voilà, c'est avec les techniques du cours, c'est facile de voir que ce problème d'optimisation linéaire-là est dual de ce problème d'optimisation linéaire-là. Si j'écris comme ça, le dual, c'est celui-là. Et le miracle, c'est qu'on a toujours dualité forte, c'est-à-dire toujours égalité des valeurs optimales. À une petite exception près. Donc je vais commencer par cette ligne-là. Le problème primal, je l'ai pris comme un problème de minimisation. La valeur optimale du primal est toujours plus grande que la valeur optimale du dual. Ça s'appelle la dualité. Le fait que la valeur optimale du primal est plus grande que la valeur optimale du dual, ça s'appelle la dualité faible. Si la valeur optimale du primal, hein, je cherche à minimiser, c'est moins l'infini, quelle est la seule possibilité pour le dual? Comme je dis que la valeur optimale du dual est toujours inférieure, c'est d'être égal à moins l'infini. Donc cette ligne-là, et un problème de maximisation dont la valeur optimale c'est moins l'infini, c'est pas réalisable. Cette ligne-là, cette affirmation-là, qui en fait prouve qu'on a dualité forte dans ce cas-là, c'est facile en fait, c'est juste par l'inégalité que vous le concluez, ce que je viens de faire là maintenant. Pareil pour ça. Celle-là, vous faites le même raisonnement sur le dual, plus l'infini, c'est une borne inférieure. Donc si la valeur optimale du dual, automatiquement, juste par l'inégalité de dualité faible, vous concluez en fait que vous avez une dualité forte. Le point qui est plus délicat, c'est celui-là. C'est la valeur optimale du primal est finie. Je n'arrive pas à le sélectionner, ce truc-là. Bon, c'est pas grave. Si la valeur optimale du primal est finie, alors vous avez égalité des valeurs optimales. Je dis que c'est plus délicat, mais normalement, vous avez tous les outils pour le savoir immédiatement. Parce que d'une part, si la valeur optimale, si la valeur du primal est finie, vous savez que vous avez une solution optimale. C'est l'optimisation linéaire qui vous le dit. Deuxièmement, vous savez que vous êtes qualifié, que vous avez une solution optimale. Là, il y a un théorème c'est un des derniers théorèmes de dualité qu'on a vu pour l'optimisation convexe qui vous dit que vous avez une dualité forte. Donc c'est, juste si vous voulez revoir la chose, c'est le théorème, le corollaire 3.12, donc page 21. En fait, avec un petit moment de réflexion, le fait que il existe toujours une solution optimale à un problème d'optimisation linéaire, lorsque la valeur optimale est finie, et le corollaire 3.12 vous implique immédiatement qu'on a dualité forte. Il y a un seul cas où on peut ne pas avoir dualité forte. C'est lorsque les deux problèmes, le primal et le dual, sont non réalisables. Ça arrive. Je pense qu'il y a des exemples, je n'ai pas le temps de le faire, peut-être dans les exemples dans le poly. C'est très facile de construire. Vous prenez une matrice nulle, par exemple, et vous prenez B et C qui sont non nuls. Vous prenez A égale 0, B et C non nuls. Ni le primal ni le dual sont réalisables. Et donc, vous avez l'un qui vaut plus l'infini, l'autre qui vaut moins l'infini. Mais c'est le seul cas, lorsque les deux sont non réalisables, c'est le seul cas où vous n'avez pas de dualité forte. Sinon, tous les autres cas, il y a toujours une dualité forte. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus ou non ? S'il n'y a pas de questions, je passe à autre chose encore. Je suis un tout petit peu en retard sur mon exposé, c'est dommage. De toute façon, vous reverrez ça en PC, c'est la partie que je vais faire là maintenant. Donc là, je commence un autre sujet. Cela dit, les idées sont très simples derrière. Je commence un autre sujet, qui est le cas des matrices totalement unimodulaires. Donc, c'est page 29. Page 39, pardon. Donc, allez hop, on reset le cerveau. En fait, tout ce que j'ai à vous dire est quasiment sur cette slide-là. Donc, il faut juste comprendre cette slide-là. Attendez, je sais plus si je fais la preuve sur la slide suivante. Oui, je le fais sur la slide suivante, d'accord. Donc, le message est le suivant. Vous prenez une matrice, si votre matrice est contrainte, votre matrice A, est un coefficient plus 1, moins 1 ou 0. Et si, chaque fois que vous prenez une sous-matrice carrée, le déterminant vaut plus 1, moins 1 ou 0, alors on dit que A est totalement unimodulaire. Donc je redis, vous avez une matrice A, toutes ses entrées, c'est des plus 1, des moins 1 ou des 0. Donc c'est très particulier. Hein. Chaque fois que vous prenez une sous-matrice carrée, calculez le déterminant, c'est plus 1, moins 1 ou 0. Alors la matrice A est totalement unimodulaire. D'accord ? Eh bien, petit miracle, si B est un coefficient entier, hein, vous voyez le problème d'optimisation linéaire sous forme standard, si B est un coefficient entier, et s'il y a une solution optimale, alors il existe une solution optimale qui a toutes ses entrées entières. C'est juste ça le message. Si vous avez, en gros, le message, en étant très caricatural, si vous avez une matrice totalement unimodulaire, si B est entier, alors vous avez une solution optimale entière. Ça, c'est intéressant, comme j'ai déjà, peut-être que vous avez commencé à le voir ou l'entendre, il est parfois intéressant d'avoir des solutions dont les coordonnées sont entières. Donc, avec ce théorème-là, vous voyez que l'algorithme du simplex vous permet de résoudre le problème où vous avez contraint en plus vos variables à être entières. Si vous avez une solution optimale à ce problème-là qui est à coordonnées entières, forcément, c'est la solution optimale du problème où vous avez contraint vos solutions à être coordonnées entières. Pourquoi est-ce que ce théorème est vrai ? Donc là, je vous demande juste pour comprendre le théorème. La matrice est totalement unimodulaire, B est entier, C, on s'en fiche, il existe une solution optimale entière. Pourquoi c'est vrai ? Eh bien, simplement à cause du... Parce que vous savez que s'il existe une solution optimale, il existe une solution basique réalisable optimale. Vous le savez, ça. Il existe un Y comme ça qui est optimal. Et donc ceux qui connaissent les formules explicites pour les inverses de matrices, hein, si vous connaissez 1 sur déterminant transposé de la comatrice, donc pour ceux qui connaissent ça, ils voient immédiatement que AB-1 est un coefficient plus 1, moins 1 ou 0 aussi. Et si AB-1 est un coefficient plus 1, moins 1 ou 0, bah, Y et B est entier. Vous faites le calcul, bah, Y sera coordonnée entière. Pourquoi ? Parce que AB, voilà, AB-1 est un coefficient plus 1, moins 1, 0. Vous faites le calcul, vous additionnez et soustrayez des entiers, vous avez toujours des entiers. Donc je vais expliquer, pour ceux qui ne connaissent pas la formule, je vais expliquer pourquoi ça c'est vrai. Sinon le message est juste le suivant, c'est que si vous avez une matrice totalement unimodulaire, lorsque vous inversez une sous-matrice carrée de cette matrice, eh ben, elle est à coefficient plus 1, moins 1 ou 0. Pourquoi est-ce que ça c'est vrai alors ? Si vous ne connaissez pas la formule de l'inverse d'une matrice, eh bien, YB, c'est la solution, vous pouvez le voir comme ça, de AB, YB égale... petit b, hein, je veux de toute façon que yn soit 0. Et ensuite, vous pouvez utiliser Cramer. Cramer il vous dit que à ce moment-là, que Y, chaque composante, une composante YJ, c'est quelque chose sous la forme déterminant de AB fois quelque chose avec ici B, et puis ici des termes qui sont un truc qui est extrait de AB. Je vais écrire A'B comme ça, juste pour avoir l'idée. Quand vous appliquez Cramer, ben, YJ, chaque entrée Y sera une fraction de quelque chose, et déterminant de AB. Déterminant de AB, ça vaut quoi ? Ça vaut quoi ? Si AB est inversible, et que vous savez que toute sous-matrice carrée elle vaut plus 1, moins 1 ou 0, et ben, le déterminant de AB, il vaut plus 1 ou moins 1. Donc, ça c'est entier. Là, vous avez quelque chose qui vient de AB, qui est des plus 1 ou des moins 1 ou des 0. Et ici, vous avez en fait quelque chose qui disparaît, c'est plus ou moins 1. Donc, YJ est entier. Hein, si vous avez un déterminant avec B, et ici, que des plus 1, des moins 1 ou des 0, ça reste entier. Ça va ou non ? Donc là, c'est une explication alternative au fait que YB est... que YB est en entrée entière, vous n'avez même pas besoin de lire AB-1 est un coefficient plus 1, moins 1 ou 0. Ce que je suis juste en train de dire, c'est que si A est totalement unimodulaire, lorsque vous faites Cramer, et bien naturellement, c'est facile de vérifier, c'est immédiat, vous verrez que votre solution est un coefficient entier. Simplement parce que le déterminant vaut plus 1, moins 1 ou 0, donc ce terme-là, le dénominateur disparaît. Enfin, il vaut plus 1 ou moins 1. Donc c'est ce que j'expliquais là tout à l'heure, l'intérêt, c'est que, vous voyez, si maintenant vous voulez résoudre ça, si on vous dit qu'il faut résoudre un problème avec x entier, mais vous savez que a est totalement unimodulaire et que b est un coefficient entier, ce que dit le théorème précédent, ce qu'on avait avant, c'est qu'il suffit de résoudre ça. Vous résolvez ça, vous allez trouver une solution optimale entière, hein, ce que j'ai expliqué. Cette solution, ce problème d'optimisation-là, celui-là, il a une valeur optimale qui est plus petite que celle-là, parce que vous avez un espace de solution qui est plus grand. Donc normalement, ici, vous devriez descendre plus bas que ça. Si jamais vous ne descendez pas plus bas, ce qui va être le cas quand c'est totalement unimodulaire, et vous trouvez une solution entière, c'est forcément une solution optimale de ce problème-là. Je redis, si vous résolvez ça, vous trouvez une solution entière optimale, c'est une solution réalisable ici, et ça donne une valeur qui est une borne inférieure de ça. Donc c'est optimal. Donc le message, sinon vous reprenez la tête reposée, le message est le suivant. Si A est totalement unimodulaire, B est entier, résoudre ça revient à résoudre ça. Et ce que vous savez faire par l'algorithme du simplex, par exemple. Ça va ou non ? Si vous ne voyez pas forcément pourquoi tout s'agence bien comme ça, croyez-le, et je vous assure que ce n'est pas difficile à vérifier. Là, par contre, les preuves sont faciles. Elle s'appuie principalement sur ce genre de jeu-là. Donc ça vous donne, lorsque A est totalement unimodulaire et B est entier, ça nous donne, l'algorithme simplex nous permet aussi de résoudre des problèmes d'optimisation linéaire où les variables sont contraintes à être entières. Alors j'ai mis le problème, j'avais exprimé le théorème sous la forme d'un problème sous forme standard. Le théorème, donc ça c'est ce que j'ai mis, c'est le corollaire. Le corollaire 5.4 dans le poly, page 40. En fait, le théorème est vrai dès que votre matrice est contrainte et totalement unimodulaire, et dès que vos membres de droite, là, est à entrée entière. Vous voyez, par exemple, je l'ai mis sous cette forme-là. Je l'ai mis comme ça pour que vous voyez bien les inégalités. J'aurais peut-être dû l'écrire. Ce que je suis juste en train d'écrire, c'est B en bas ou c'est D ? Non, c'est D. Les contraintes, c'est juste D plus petit que AX, toujours composante par composante, hein, plus petit que B. Donc je suis en train de dire, c'est plus généralement, vous avez un problème d'optimisation linéaire où les contraintes sont comme ça, A est totalement unimodulaire, D et B sont entiers, et là j'accepte même les entrées égales à moins l'infini plus l'infini, et bien à nouveau, il existe une solution optimale entière. S'il existe une solution optimale, il en existe une qui est entière. C'est une conséquence immédiate du théorème. Ça, à nouveau, c'est facile à vérifier. Vous montrez que ça... Vous savez, la semaine dernière, vous avez vu comment vous ramenez la forme standard. Ben, vous prenez ce problème-là, vous le ramenez à la forme standard, et vous vérifiez que si A est totalement unimodulaire là, ben, la nouvelle matrice A que vous obtenez quand vous écrivez sur forme standard, elle est encore totalement unimodulaire. C'est quasiment immédiat. Et donc, on a plein de conditions. On a plein de conditions qui... parce qu'après, vous allez me dire, oui, c'est est-ce que c'est facile à vérifier qu'une matrice est totalement unimodulaire? Tester tous les déterminants de sous-matrice carrée, ça aussi, c'est énorme. Mais il y a des conditions qui l'assurent très facilement. Donc déjà, j'en ai donné quelques-unes qui sont complètement évidentes. Si A est totalement unimodulaire, A transpose l'est aussi. Si A l'est, moins là l'est aussi. Après, on peut s'amuser à combiner comme ça. Si vous faites deux copies de A, ça sera vrai. Si vous rajoutez des colonnes nulles ou des colonnes où il y a un seul 1 et que des 0, c'est vrai aussi. C'est très facile à vérifier. Si vous multipliez une colonne ou une ligne de la matrice A par 1 ou par moins 1, ce sera vrai aussi. Ça je pense que c'est évident, parce que vous savez que dans un déterminant, lorsque vous multipliez une ligne ou une colonne par moins 1, vous ne faites que changer le signe. Donc tous ces trucs-là, normalement, c'est quasiment évident. Celui-là, le théorème là, qui est de Poincaré, je pense que lui, il est moins évident. Et c'est là-dessus que je termine, parce que je n'ai pas le temps de faire l'application au graphe, malheureusement. Je vais juste énoncer le théorème. Si les chargés de TD m'entendent, ce serait peut-être pas mal de faire la preuve en petite classe. La preuve est très courte. Hein. Elle est dans le poly, c'est la proposition 5.5. Donc je termine par ce théorème. Si vous prenez une matrice à coefficient plus 1, moins 1 ou 0, et sur chaque colonne, vous avez au plus 1, plus 1 et au plus 1, moins 1, et bien votre matrice est totalement unimodulaire. Donc si vous avez une matrice qui ressemble à ça, des 0, 1 plus 1, des 0, 1 moins 1, des 0, à nouveau là des 0, 1 plus 1 tout seul, des 0, des 0, 1 moins 1, des 0, 1 plus 1, des 0, etc. Quelque chose comme ça, et bien vous êtes sûr qu'elle est totalement unimodulaire. Et il y a plein d'applications très jolies que vous pourrez voir dans les exercices qui utilisent cette propriété-là. Voilà, donc je m'arrête là. Donc dans les slides et dans le poly, vous avez une application très sympa, pour ceux que ça intéresse, qui mélange la totale unimodularité de la matrice des contraintes à la dualité forte. On a des résultats, des théorèmes assez inattendus. Et puis j'avais aussi prévu, enfin vous le trouverez sur les slides, hein, je mets toujours les slides en ligne, comme vous le savez probablement, sur EducNet. Je voulais juste signaler qu'il est tout à fait possible de continuer l'optimisation à l'École des Ponts. Il y a plein de cours qui explorent les divers aspects de l'optimisation. Puis n'hésitez pas à venir me voir, à venir voir mes collègues qui font l'optimisation pour des projets, des stages, voire plus tard, hein, vous êtes encore jeune, mais des thèses, ou alors vous spécialiser dans des masters pour travailler en entreprise directement dans ces domaines. Voilà, je vous remercie. Et à la rentrée, donc, il y aura l'examen. Et vous savez peut-être qu'il y aura aussi un TPA de révision, c'est-à-dire qu'on sera ensemble en amphi, et je vous ferai réviser une dernière fois, une ultime fois, une ultime révision avant l'examen. Donc je vous souhaite bonne continuation à ceux que je ne croiserai plus, et puis à bientôt pour les autres.